rapidement, donc, mais de tout. Oui, alors, Jean-Claude.
Il n'y a pas deux types d'armées. Il y en a trois, à ma connaissance. Les mercenaires, l'armée de métier et l'armée nouvelle. Il ne faudrait quand même pas oublier que Jaurès a existé il y a à peu près un siècle et qu'il avait, avec d'excellentes raisons, pensé que l'armée nouvelle, c'était justement une armée qui était plus populaire, plus près des besoins de se défendre, puisqu'il n'était pas question d'envisager une armée pour autre chose que se défendre. Alors, tout ce que je vais dire maintenant est profondément immoral, puisqu'il ne faut pas situer sur le plan moral les propositions qu'on doit faire. Et je suis bien d'accord avec cette idée-là, parce qu'on affaiblit beaucoup ce que l'on veut dire si on assaisonne de bons sentiments. On a en face de nous le complexe médico-industriel, c'est-à-dire un espèce de bloc avec des interactions multiples, certaines visibles, d'autres moins, et on lui attribue, probablement à raison, mais pas exclusivement, un certain nombre de dysfonctionnements, dont ce qui a été l'objet de la discussion hier et aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer, dans des rapports de force qui ne sont a priori pas favorables, de modifier la situation? Je pense qu'il faut dissocier ce complexe médico-industriel. Bien entendu, il ne se laissera pas faire. Le travail qui a consisté à le construire ne sera pas défait en un tour de main. Mais, par exemple, je pense qu'il ne faut pas dire, et ça c'est une des petites critiques mineures au propos que vous venez de tenir, qu'il faut en même temps tenter de réduire les profits de l'industrie pharmaceutique, qui sont absolument excessifs par rapport aux services rendus. Je déteste cette manière d'écrire les produits, leur qualité et les effets réels que ça peut avoir sur les gens. Donc dissocier les profits de l'industrie pharmaceutique des revenus des professionnels. Je pense que si on les met dans le même sac, eh bien, il n'y a aucune chance que l'on réussisse à faire avancer les choses. Parce qu'en provoquant l'union sacrée contre notre propos, il est clair que nous affaiblissons notre position. Alors, ce n'est pas un grand stratège qui dit ça, mais enfin, d'une façon générale. Deuxièmement, vous avez dit une chose, je vous offre une rose et je commence par les épines. D'accord ? Alors, après viendra la rose elle-même. Vous avez dit, il faut avoir des experts médicaux, mais ils sont tous dépendants. Eh bien non, je crois que c'est inexact. Je pense qu'il y a, non pas pléthore, mais il y a largement de quoi trouver des experts médicaux indépendants. Et tout à l'heure, ce qui a été dit à propos de la revue Prescrire le montre. Il y a des gens qui savent faire de l'expertise médicale à propos des médicaments, indépendamment des intérêts de l'industrie pharmaceutique. Et ils sont plus nombreux que ceux qui gravitent autour de la revue Prescrire. Ce sont simplement des gens qui ne sont pas dans le système et par là même ne sont pas sollicités. Vous avez peut-être vu cette émission de télévision qui s'appelait Les médicamenteurs, qui a été faite par quelqu'un dont je regrette qu'il n'ait pas été invité à prendre la parole ici, qui est Philippe Foucras. Pardon ?
Jean-Claude, il faut que tu... Non mais si, on n'a plus que 10 minutes, donc il faut... on a une demande d'intervention...
Je peux m'arrêter là.
On a jusqu'à 4h30. Ah, 4h30. Ah, excusez-moi. Non, mais le...
Que fais-je? Je peux terminer?
Oui, tu peux terminer.
Bon, d'accord. Je regrette donc que ceci n'ait pas été... Enfin, qu'il n'ait pas été invité. Dans son émission de télévision...
Plus près de ton micro.
On t'entend mal.
Dans son émission de télévision, il montrait... il faisait parler, premièrement, Witkok, qui est le président de la commission d'AMM, et deuxièmement Renaudin, qui est le président de la commission des prix des médicaments. Et il faisait dire à Witkok la chose suivante. Quand il s'agit de recruter des experts, comment voulez-vous qu'on trouve des gens qui n'aient pas d'intérêt dans l'industrie pharmaceutique, des gens qui aient des conflits d'intérêts, puisque s'ils n'ont pas de conflits d'intérêts, c'est qu'ils ne savent rien. Alors, partant de cette proposition que l'existence de conflits d'intérêts est la garantie de l'expertise, effectivement, on ne trouve pas d'experts indépendants. Or, je pense que les experts indépendants, ils existent, et ils sont souvent au moins aussi satisfaisants professionnellement que le sont les experts qui n'arrêtent pas de tourner dans un petit cercle parfaitement dans la main de l'industrie pharmaceutique. Donc il y a quand même quelque chose qui doit être regardé de ce côté-là. Bon, je m'en tiens là puisqu'il semble que je suis un peu long.
Non, Jean-Claude, c'est pas ça. Je crois qu'on a intérêt à favoriser le plus possible la participation.
Oui, moi je vais me présenter parce que je pense que je ne connais pas la personne qui vient de parler.
Alors Jean-Claude, il s'est présenté tout à l'heure, Jean-Claude Salomon.
Ah,
il
c'est Jean-Claude Salomon. Mais
il est médecin, il est écrivain, il est attaquien.
Moi je suis le président de l'association d'aide aux victimes des accidents des médicaments. Donc moi je ne parle pas beaucoup, je ne vais pas vous tenir le crachoir très longtemps. Moi j'agis, vous comprenez ? Parce que les paroles c'est bien gentil, mais ça ne sert pas à grand chose. Donc, Frédéric Pierru, tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit, et je vous félicite pour votre intervention, avec simplement quand même un petit problème. Là. Marimbert n'est plus président de l'AFSAPS depuis peu de temps, parce que souvent il me met des courriels, même le dimanche matin, donc il est quand même très inquiet. Alors pour ce qui concerne... Pour ce qui concerne l'évaluation des médicaments, c'est une vaste plaisanterie. Je vous entends parler d'évaluation, d'autorisation de mise sur le marché. Vous ne savez pas comment ça se pratique. L'évaluation, elle est administrative, purement administrative. Elle est faite sous la responsabilité de l'industriel. Donc, l'industriel présente un smirmorgue de documents. Maintenant, ça va se faire de manière informatisée. Et on délivre une autorisation si ça correspond aux critères. Alors, ensuite, il y a la pharmacovigilance, et c'est là où ça ne va plus. Il n'y a pas de pharmacovigilance, ça n'existe pas, c'est un leurre politique. Donc, même la revue Prescrire, l'évaluation, bon pour dire qu'un médicament est meilleur que ou moins bon, etc., mais enfin, en réalité, elle ne se mouille pas beaucoup. Alors bon, je ne dirais pas qu'elle touche des subsides de l'industrie pharmaceutique comme la plupart des associations de patients, mais il y a quand même un problème. Donc, il y a un problème. Moi, aujourd'hui, 18 ans que j'ai fondé cette association, j'ai 6000 dossiers, je n'ai pas pu venir vous voir hier, j'étais débordé, je me suis levé à 5h du matin aujourd'hui pour terminer des dossiers et venir vous voir, pour voir un petit peu. Et voilà. Système. Par exemple, en ce qui concerne les médicaments psychotropes, vous savez qu'il y a eu des affaires graves tous ces temps-ci, des pères de famille qui ont assassiné 4 ou 5 enfants, qui se sont suicidés, qui étaient sous benzodiazépine, sous traitement tranquillisant et somnifère. Alors aujourd'hui, oui, ça fait 18 ans que j'ai fondé cette association parce que j'ai perdu mon fils. Donc ça fait 18 ans, c'est l'anniversaire, ça tombe comme ça. Il n'y a pas d'analyse toxicologique demandée par la justice pour savoir si la personne était sous médicaments, sous psychotropes ou peut-être même sous cocaïne. Hein, pourquoi pas, j'en sais rien. On ne fait aucune, il n'y a pas d'analyse toxicologique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pharmacovigilance. Et notre association reçoit des dossiers d'homicide ou de suicide. Par exemple, cette femme qui a égorgé ses 6 enfants et qui a été jugée à Bruxelles il n'y a pas très longtemps, elle avait avalé du Valium. Une autre, dont la maman est médecin à Orléans, elle a égorgé 2 ou 3 de ses enfants, etc. Bon, enfin, on n'en finit pas, je ne vais pas vous raconter tous les problèmes, mais à chaque fois, on retrouve les mêmes produits. Et l'agence n'est pas au courant. Elle n'a pas les dossiers. La justice ne lui transmet pas les dossiers. Même quand il y a des analyses toxicologiques, même quand il y a eu... Eh bien, il n'y a pas d'intervention. Voilà. Alors... Les génériques, alors simplement pour finir, hein, parce qu'on ne va pas reprendre, je ne suis pas revenu ici pour faire toute la conférence, surtout que j'étais pas là hier, donc vous en avez peut-être parlé. Mais les génériques, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que font les laboratoires Ben, les laboratoires, ils essayent de vendre leurs produits. Et donc, comme on diminue les prix, eh ben, on fait du lobbying, on fait du forcing, et on essaye de vendre des médicaments. Et je dois dire qu'à titre personnel, j'ai fait connaissance d'un pharmacien, tout à fait par hasard, donc la rencontre était un peu... Et puis, ce pauvre type qui avait une pharmacie dans un endroit un peu difficile a eu des ennuis avec des grands frères parce qu'il y avait une gamine qui avait volé un petit collier, donc ça n'avait rien à voir avec... Et il a vendu vite fait sa pharmacie, s'est retrouvé sans travail, et il est rentré dans une société qui fait du générique. Mais il reçoit des pressions énormes pour vendre du générique. Il faut vendre des médicaments à des personnes... Voilà, ben, c'est tout ce que j'ai à vous dire.
Alors, qui veut intervenir là ? Alors, ouais. Garance.
Moi, je vais revenir à ce que Bernard Tepper disait tout à l'heure. Reprendre contrôle de l'OMS, ce qu'a soulevé aussi Dr Velasquez, parce que c'est vrai que quand on voit, je ne suis pas sûre que tout le monde ait compris hier dans certaines des interventions, quand on a parlé de l'Assemblée mondiale de la santé. Parce que l'Assemblée mondiale de la santé, c'est la décision, donc l'Assemblée délibérative des gouvernements. Les gouvernements, ils élaborent une politique. Ils élaborent une politique comment ? Avec, notamment, pour beaucoup de pays en développement, l'appui d'experts. Germain Velasquez était l'expert de la délégation du Colombie. Cette fois-ci, je crois que ça a joué un rôle important dans les déclarations finales de l'UNASUR qui ont remporté l'Assemblée générale. Et la société civile, dont PHM, dont d'autres organisations, qui aident et qui collaborent avec les organisations gouvernementales. Alors, ce que je voulais dire, en appui à ce que tu as dit, c'est que ça doit être un des objectifs du mouvement social, doit être de reprendre contrôle de l'OMS dans le domaine de la santé. C'est-à-dire, à la fois aider les gouvernements de pays pauvres, à être mieux informés, renforcer ces pays, par exemple d'Amérique latine, l'Équateur, qui ont des positions phares, essayer de les faire connaître, de leur apporter un soutien, faire en sorte que les médias et la société civile donc travaillent main dans la main avec les associations de pays du Sud pour faire prévaloir une OMS transparente. Et aller donc contre aussi l'autre côté qui est que si on continue la dérive actuelle, c'est Davos qui va se débarrasser de l'OMS, mais pas du tout du point de vue que l'on voudrait. Et d'autre part, puisque tu as très bien présenté l'historique des ADPIC et de l'OMC hier, Louis Weber, je voulais dire aussi que l'Organisation des Nations Unies, UNCTAD, la SNUSED, on l'oublie, mais c'est parce que la SNUSED n'obéissait pas au consensus de Washington, je résume vraiment en abrégé, hein, qu'on a créé l'OMC. Et donc c'est important aussi de faire savoir que dans la sphère économique, au niveau mondial, la SNUSED mène un combat qui dit si on n'arrive pas à se débarrasser du lobby financier, on va vers la déindustrialisation, on va vers une catastrophe d'une ampleur presque inimaginable. Et ça m'amène à mon dernier point, parce que Frédéric Pierru, vous avez parlé, on parle souvent, moi ça me rend un peu malade, du coût de la santé. Le fait, quand on regarde le déficit budgétaire aux États-Unis, il est beaucoup plus important, ça ne crée pas de problème. Pourquoi ? Parce qu'ils ont la souveraineté monétaire. C'est une question de souveraineté monétaire. Il n'y a pas une somme d'argent fixe qui est disponible pour faire ceci ou cela. Ça dépend si vous avez la possibilité et la liberté de décider de l'allocation de crédit pour faire ce que vous voulez. Là, aujourd'hui, la Grèce et puis derrière d'autres pays européens vont être traités comme on a détruit les pays d'Afrique par le passé. Et donc c'est une question économique, mais il faut arrêter de répéter ce que l'orthodoxie économique nous dit, comme si l'argent, c'était le panier de la ménagère. Merci.
Bon, alors je recommande à nouveau de lire la lettre d'Alison Katz à Margaret Chan. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça se trouve donc sur Google. Je rappelle que les laboratoires, ils inventent des vaccins, des médicaments s'il faut. Vous vous rappelez l'histoire de la dysfonction sexuelle féminine ? Je crois que c'était Bayer, il me semble, qui s'était lancé là-dedans. Ou Pfizer, je ne me rappelle plus. Bon, c'était une grande blague, ça n'a pas marché d'ailleurs. Alors, je relance mon appel pour un statisticien. Nous en avons besoin au REVAB, absolument, si quelqu'un connaît un statisticien. Le REVAB, Réseau des victimes du vaccin hépatite B. Ouais. Voilà. Je rappelle que c'est le REVAB et non pas l'AFSAPS, Agence du médicament, ex, qui a fait le recensement des victimes du vaccin hépatite B. 72% des cas ont été trouvés par l'AFSAPS. La pharmacovigilance française, elle n'a pas fait grand-chose. Bon. Mais on n'était pas payés, nous autres. On n'obtient même pas de subvention pour survivre. Bon. Autre chose, je pense qu'il faudrait absolument, on a parlé des experts, c'est un très très gros problème. Moi, je suis en justice au pénal à Paris, au pôle de santé publique, bien entendu, pour la mort de mon mari. Et on a eu Marc Girard comme expert. Il a été complètement persécuté après. Hein. On peut citer Menton pour l'histoire du sel, qui a été persécuté. On peut citer Christian Vélo, qui l'est. On peut citer Serralini, qui travaille au Cryigène contre Monsanto, hein, pour les OGM agroalimentaires. Il est en ce moment la cible de tous ses ennemis. Et parmi eux, il y a Allègre, comme par hasard, et il y a aussi Axel Kahn, c'est plus surprenant. Bon. Autre chose, donc il faut absolument qu'on obtienne la protection juridique des experts. Parce qu'on m'a dit, là, on a dit derrière, M. Salomon, qu'on en trouverait si on cherchait. Eh bien, le juge d'instruction n'en trouve pas d'indépendant. Il n'arrive pas à en trouver d'indépendant. Ils sont tous effectivement liés. Alors, on dit effectivement qu'ils sont plus compétents que les autres parce que justement, ils travaillent avec les laboratoires. Mais bon, ceux qui sont indépendants sont persécutés. Ça n'engage pas tellement les autres à s'engager. Alors, la prévention. La prévention est devenue la vache à lait. Évidemment, le moral, la morale, là, elle intervient. L'humanitaire, c'est magnifique. Mais la prévention, elle sert maintenant les intérêts de l'industrie pharmaceutique. Tartuffe est là derrière. Il faut faire attention. Bon, autre chose encore. Donc, je dis que la prévention est détournée en ce moment au profit de la grippe A, ça a été clair. Hein. Bon. Ensuite, les actions de groupe. Il faut absolument obtenir les actions de groupe en France, comme il y en a aux États-Unis. Parce que bon, on ne peut pas se défendre tout seul, hein, c'est très très difficile. Nous, moi je connais des tas de gens qui voudraient porter plainte, mais ils ne peuvent pas, ils n'ont pas les moyens. Et oh non, pas vraiment. Il y a des saisines globales, plus ou moins, que les. Ben, là, dans le domaine de la vaccination hépatite B, on n'a jamais pu faire d'action de groupe. Hein. On est tous individuels et il y en a des. Ben, je ne sais pas si c'est à faute des avocats, mais je sais que. Les gens n'ont pas les moyens de le faire, en général. Et alors, je voudrais vous rappeler, justement, que la prévention étant la vache à lait nouvelle, eh bien, voilà l'argument qu'emploient aujourd'hui Sanofi et Glaxo. Ils disent qu'il faut relancer la vaccination hépatite B parce que les gens ont oublié. Comme la France a une expérience très particulière sur le sujet, parce que c'est le pays qui a le plus vacciné au monde et que c'est là qu'il y a eu le plus d'accidents, forcément, eh bien, à cette époque-là, les gens se sont méfiés, ils n'en voulaient plus. Mais les gens ont oublié. Et leur argument, je l'ai entendu dans leur propre bouche, c'est de dire « les jeunes parents ne sont pas au courant, donc on va pouvoir relancer le truc ». Et ils le relancent en ce moment. Alors, je rappelle que ces laboratoires qui relancent ça sont mis en examen. Alors, ils sont mis en examen. Ils ne sont jamais condamnés. Sans contaminer, ils n'ont pas été. Hormones de croissance, ils ne l'ont pas été. L'impunité est toujours à l'affût. Bon. Eh bien, ils ont été mis en examen pour atteinte involontaire à l'intégrité physique ayant entraîné une ITT supérieure à 3 mois. Non-assistance à personne en danger. Administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l'intégrité physique et psychique. Faux et usage de faux. Tromperie et falsification. Recherche biomédicale non consentie. Publicité trompeuse de nature à porter atteinte à la santé publique. Mise en danger de la vie d'autrui et homicide involontaire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On continue? On relance? Voilà, je pense que je passe la main à d'autres, mais je voulais le dire.
Le micro plutôt que la main, mais...
Je voulais le dire. Le,
est-ce qu'il y a... Non, mais c'est très... De toute façon... Oui, non, mais on fera appel... Rassurez-vous, on fera appel à vous si on a besoin de publier ou de faire connaître des choses. Bien, pas... Oui, une dernière pour la route.
petit mot. Pour les anticholestérols Bayer, on a eu également droit à l'expertise de ce brave docteur Girard, qui a été radié comme expert. Il est charmant, il est bien, mais il est beaucoup trop excessif, beaucoup trop agressif dans ses rapports, et il travaille pour l'industrie pharmaceutique. Alors, quand un laboratoire ne lui donne pas le dossier d'AMM, bah, il le casse. Donc, il a été radié. Alors, c'est toujours un peu difficile. De toute façon, dire que le REVAB n'a pas été payé au début, moi j'ai bien connu le REVAB et nous avons déjeuné ensemble avec le président. Et donc c'était sa paye, c'était un repas qui était offert d'ailleurs par le Parisien avec le journaliste qui s'appelait Éric Giacometti et qui a vraiment fait beaucoup pour dénoncer toute cette mascarade de vaccination contre l'hépatite B. Mais il faut dire que le médecin, il restait dans son rôle de médecin, c'est-à-dire de soigner, éventuellement de guérir, etc. Et puis de sauver sa peau, parce qu'il était également atteint. Votre président était également atteint. Ouais, et voilà, Jakubowicz, mais il n'a pas le côté juridique de... Nous, on lui envoyait des dossiers parce qu'on ne voulait pas s'occuper de vaccination. Et là, on a plus de 6000 dossiers. On s'occupe de l'affaire du Vioxx, de l'affaire des anticholestérols Bayer. Et en ce moment, je vous dis, il y a près de 500, pas plaintes, parce qu'au pénal, il n'y a rien à faire. C'est pas la peine des instructions sont pas rêvées. Donc même Marie-Odile Berthelat-Geoffroy, quand on lui dit de...
Bien, ces dernières interventions montrent au moins que, à côté des acteurs traditionnels bien connus, il y a fort heureusement... une foule d'autres acteurs dont l'action mérite, elle aussi, d'être mentionnée. Alors, je propose que, pour finir, Bernard, tu rassures rapidement Garance sur l'avenir de l'OMS. Ensuite, que Frédéric, en deux mots, et puis je terminerai avec votre permission en vous interrogeant, enfin, mais sans vous demander des réponses immédiates, sur la manière dont on pourrait poursuivre ce genre de...
Non, ce que... Oui, ce que... Non, mais ce que Garance Ufam, je pense, a voulu dire, c'est qu'il ne fallait pas abandonner cette idée de reprendre le contrôle de l'OMS, qui, pour l'instant... je dirais, de plus en plus dans les mains des grandes firmes multinationales, pharmaceutiques, mais malheureusement aussi assurantielles. Et que le problème, c'est qu'il y a besoin, je dirais, d'une bataille globale. C'est-à-dire que on pourra faire 325 colloques les uns derrière les autres pour dire du mal des uns et des autres, pour faire des analyses. Il faut le faire, c'est absolument nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire que l'importance des sommes en jeu, hein, je rappelais 31,3% du PIB pour la protection sociale, bon, c'est 8 fois le budget de l'éducation nationale, premier budget de l'État, etc., fait que les prédateurs capitalistes mettent, je dirais, énormément de moyens dedans. Et qu'il y a besoin d'une stratégie à front large. Il n'est pas suffisant de dénoncer et d'analyser. Ce qu'il faut, c'est une stratégie à front large avec l'ensemble des acteurs. D'abord, le mouvement syndical, parce que c'est le mouvement qui est capable de mobiliser le maximum de gens. C'est comme ça. Et puis ensuite... Bien évidemment, le mouvement associatif, le mouvement mutualiste, les professionnels de santé, les élus, etc., etc. Tout ça, à mon avis, n'est possible que si, parallèlement aux actions de mobilisation, on fait de l'éducation populaire. Ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup d'organisations qui parlent d'éducation populaire, mais le fait d'en parler les exonère d'en faire. Voilà. La question, c'est qu'il faut ouvrir des processus d'éducation populaire avec l'ensemble de ces acteurs, pour être la deuxième jambe, hein, le grand philosophe chinois bien connu qui disait qu'il faut marcher sur ses deux jambes, et que l'une, si l'une des jambes, c'est d'avoir la bonne analyse et la bonne compréhension, l'autre jambe, c'est la mobilisation. Et il faut la mobilisation et la bonne compréhension. Mais pas la bonne compréhension uniquement des experts qui sont nécessaires, mais il faut que ça soit les citoyens qui puissent comprendre. Parce que c'est eux qui peuvent intervenir et c'est les seuls qui, à terme, changeront la donne. Parce qu'on a tout essayé. Les gens ont sous-traité aux professionnels de santé la défense du système de santé et de sécurité sociale. Ils ont ensuite sous-traité aux élus et on a vu le résultat. Ensuite, ils ont sous-traité à un certain nombre d'associations, dont la mienne, dont la vôtre, etc., où on s'aperçoit bien que ces associations, c'est vraiment Lilliput, hein, face à des gros mastodontes. Et que la seule chose qui peut changer la donne, c'est le mouvement populaire. Et ce mouvement populaire, d'un côté, il faut l'organiser, de l'autre côté, il faut effectivement ce processus d'éducation populaire qui n'existe plus, parce que même dans les grandes organisations politiques et syndicales, on ne fait même plus de formation sur le fond, je dirais, aux adhérents de la dite organisation. On confond souvent formation et information. Et donc, si j'ai une conclusion à faire, c'est ça, c'est lier les dispositifs d'éducation populaire avec, je dirais, les mobilisations. Voilà. Et que... Ben, je vous invite à y participer pour ceux qui le souhaitent. Je vous remercie.
Oui, alors j'ai juste deux remarques ponctuelles. Effectivement, je suis d'accord avec Jean-Claude Salomon qu'il faut déjà éviter de penser effectivement en termes de blocs médicaux ou de complexes médico-industriels, enfin en tant que bloc homogène et qui serait sur une convergence totale d'intérêts, puisque bien évidemment, même si en France par exemple on voit ponctuellement les médecins libéraux s'allier aux laboratoires pharmaceutiques et avec les assureurs privés contre les assurances sociales, il faut le dire, les intérêts de tout ce petit monde sont loin de converger. Ils convergent ponctuellement. Et l'exemple américain de l'évolution du système de santé américain a par exemple bien montré que l'exercice libéral de la médecine est incompatible avec le libéralisme des assureurs. C'est-à-dire que si les assureurs prennent le pouvoir, le libéralisme médical est enterré. Voilà, c'est-à-dire que c'est une confusion, le terme libéralisme entraîne une confusion, le libéralisme médical n'est pas le libéralisme économique, et à bien des égards, c'est son contraire. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est sur l'indépendance des chercheurs. Effectivement, je nie pas que ponctuellement, il y ait des experts indépendants. Il me semble que, dans le débat, ce qui me semble un peu compliqué, c'est qu'à côté des affaires avérées de corruption, la notion de conflit d'intérêts est très floue. Qu'est-ce que c'est qu'un expert qui a des conflits d'intérêts lorsqu'il est appelé à évaluer un médicament ? Est-ce que c'est parce qu'il a des liens sur toute autre chose avec l'industrie ? Ou est-ce qu'il a des liens, évidemment, sur ce médicament en particulier ou sur ses recherches en particulier ? Donc, c'est très flou. Et ce qui me semble surtout important, c'est comment développer une expertise indépendante, effectivement, qui échapperait aux pressions. Et il me semble que le dépérissement de la recherche publique, conjugué finalement à la stagnation des moyens des agences d'évaluation par rapport à l'élargissement de leur mission, fait qu'ils recourent forcément, enfin ces agences recourent forcément aux expertises externes. Et je pense qu'il faut renforcer l'expertise publique interne. Voilà pourquoi je voulais dire qu'il fallait peut-être créer aussi une FDA à l'européenne en mutualisant les moyens, mais aussi en se donnant les moyens d'avoir des experts internes. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire.
Bien, eh bien, merci. Je crois qu'on est dans les temps. Hein. Quand Bernard Cassen a ouvert hier ce colloque, il s'est déjà interrogé sur les suites, hein, parce que manifestement, on serait tous un peu frustrés si après ces deux jours de riches débats, il n'y avait pas un prolongement d'une façon ou d'une autre, qui a été réclamé d'ailleurs de différentes manières. Alors c'est vrai que l'UFAL peut-être un peu, Mémoire des luttes pas forcément, sont deux associations qui n'avaient pas nécessairement, enfin, il n'était pas absolument obligatoire par rapport à leur vie interne d'organiser ce genre de colloque et d'être le seul, les seuls à l'organiser. Si nous l'avons fait, c'est parce que c'est une question vive, comme on dit, hein, et que sur ces questions vives, alors on peut appeler ça éducation populaire, on peut lui donner différents noms. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a aujourd'hui dans le pays un immense besoin d'information, de formation, et comme diraient les Brésiliens qui étaient là hier, enfin non, Douglas n'est plus là, de conscientisation, hein, pour justement faire progresser un certain nombre de choses et avancer, parce que ce n'est pas avec nos forces, évidemment, qui sera suffisant. Enfin, nos forces, je parle des deux associations organisatrices. Bon, à partir de là, nous avons voulu jouer un peu le rôle de catalyseur, de passeur, et pourquoi pas d'incubateur, hein, ce qui pose immédiatement la question, mais de quoi, hein. Alors nous, ce que nous allons faire, c'est évidemment faire connaître dans toute leur richesse l'ensemble des interventions. L'UFAL a un site, Mémoire des luttes a un site, donc au minimum, hein, on mettra là-dessus l'ensemble des documents, hein, ça a été intégralement enregistré, donc on y retrouvera certainement les enregistrements audio, les textes sous forme de fichiers, et puis on a... Non, attends. Non, mais attends, là, non, mais ça, c'est pas... Non, mais attends, là, on parle de l'organisation. Non, mais on va, donc, on va en discuter, hein, c'est pour ça que je donne pas de réponse définitive. Ça peut donner lieu à une parution. Quand je dis que ça a été entièrement enregistré, ça a été enregistré de différentes manières. Hein. Il y a eu cet enregistrement-là, il y a eu l'enregistrement direct à partir du micro, mais ça, c'est sur le plan technique. En tout cas, nous avons la matière, hein, pour faire connaître ce qui a été dit, et il est dans notre vocation quand même, hein, d'être ensemble et des partisans convaincus de l'éducation populaire, d'utiliser tous les moyens à notre disposition pour faire connaître ce qui a été fait aujourd'hui. Et évidemment, nous comptons sur les associations. Moi, personnellement, nous ne savions pas au départ, hein, si nous avions su qu'il y avait une richesse associative aussi importante que celle qui s'est manifestée ici, nous aurions peut-être pu envisager autre chose. Hein. Pour l'instant, et je m'en félicite d'ailleurs beaucoup, nous avons surtout pensé à Oxfam et à ACT UP parce qu'ils sont publiquement impliqués dans un certain nombre de choses. Bon, mais en tout cas, dans la mesure de nos faibles moyens, hein, et avec votre soutien, nous, on est tout prêts à continuer à faire bouillonner un certain nombre de choses pour que, y compris des mesures aussi ambitieuses que la réappropriation de l'OMS par les masses populaires, pour que ça devienne un objectif à notre portée. Voilà. Alors, en vous remerciant tous, donc restez, de toute façon, nous avons vos coordonnées, et donc... Oui, alors, un clin d'œil d'Outre-Quiévrin.
Voilà, c'est ça, c'est juste pour dire que si nécessaire, si c'est opportun, il y a une plateforme qui existe du côté belge qui, à mon avis, pourrait être relayée d'une façon assez pertinente.
Très bien. Merci. Alors. Bien. Donc. Bon retour et merci pour avoir sacrifié ce joli week-end de printemps.